Bon, on a alors retrouvé notre texte de la semaine dernière, de l'épître à Timothée, le deuxième chapitre, qui est un chapitre plein de sujets qui peuvent faire débat. Il y a certains qui font débat aujourd'hui dans l'Église de Jésus. Alors ça va être intéressant ou pas. On va lire le texte qui va peut-être nous remettre en question ce matin. On va peut-être avoir des choses qui vont être remises en question. 1 Timothée 2 dans la version seconde 21. J'encourage ou j'exhorte. Donc, on verra le petit donc. Donc, avant toute chose, de faire des demandes, des prières, des supplications et des prières de reconnaissance, d'action de grâce, pour tous les hommes, tous les humains, anthropos ici, il s'agit de tous les hommes et les femmes confondus, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété, en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Verset 8. Je veux donc que les hommes, là il s'agit masculin, prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni arrière-pensée. De même aussi, que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner ou de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Alors, ce texte est dans un contexte que je voudrais passer un petit peu de temps. Il y a un contexte historique. Comment était la Rome antique? Comment ça fonctionnait? Le monde gréco-romain, du temps où l'apôtre a écrit cette lettre. C'était un fonctionnement patriarcal. Quoique les femmes aient quelques des droits à ce moment-là, quand même, dans l'Empire romain, et conservaient leur nom dans les mariages. Elle pouvait demander même le divorce ou hériter. On voit ici qu'elles peuvent avoir de très belles toilettes, les femmes aisées. Il y avait des phénomènes de mode, il y avait, voilà. Et donc, il y avait aussi une réaction à tout cela. Et il y avait d'autres qui faisaient la promotion d'un certain ascétisme. Et voilà, revenir à des choses dépouillée de tout et même de ne pas se marier pour les femmes. Alors c'était pas uniforme, hein. La société n'est pas tout à fait uniforme comme elle ne l'est pas uniforme pour nous aussi quand on se promène dans la rue, dans les rues, dans les grandes villes. Ben on voit que c'est très varié. Hein. L'enseignement de Jésus avait cependant amené une révolution. Par rapport à la condition de la femme, hein. Galates 3, 28, Paul écrit, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Affirmation bouleversante. Et donc, dans l'église de Jésus, la femme avait connu une très importante rétablissement de sa position par rapport à l'homme. Et on peut comprendre que les églises étaient très observées à ce moment-là, observées de près. On devait chercher la petite bête, chercher tout ce qu'on pouvait voir et dire pour porter des ragots, des accusations contre eux. Il y a également, un deuxième point, donc, dans le contexte, une double destination à la lettre. Elle était destinée premièrement à Timothée. Et donc, Timothée recevait ses instructions. Et ce sont les instructions derrière l'apôtre Paul. C'est l'autorité apostolique, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui donne ses instructions. Et elles sont données à Timothée, brut de décoffrage. Voilà, il passe pas par quatre chemins, il dit les choses très clairement. Et c'est Timothée qui va recevoir cette lettre à Éphèse et qui aura la charge, peut-être de la lire publiquement, mais certainement de déployer cet enseignement, on peut dire sur le terrain, et voilà, de l'habiller, de l'expliquer et de le faire passer. C'était sa responsabilité. Mais c'est aussi une lettre publique, et en fait, à travers les Écritures, les hommes, les femmes ont accès direct aux instructions qui étaient données à Timothée, et donc Timothée, lui, n'est qu'un intermédiaire entre l'Église et les instructions qu'ont laissées les apôtres. Et donc, il ne pouvait que faire que répéter ce que y était l'enseignement qui avait été laissé et établi par les apôtres, l'enseignement apostolique. C'était un répétiteur, en quelque sorte. En Afrique, on les appelle comme ça les personnes qui, après les cours, vont à la maison et puis ils répètent simplement le cours magistral qui a été donné. Ils n'ajoutent rien, ils n'enlèvent rien, mais ils sont chargés d'aider les élèves qui sont en difficulté, des répétiteurs, et c'est un petit peu aussi le rôle de Timothée. Un chapitre qui précède également, on a vu la semaine dernière, il y a des impératifs, et on apprend dans ces impératifs, ces injonctions, Paul, en fait, il vise l'amour, le but de ses instructions. C'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et si c'était valable pour les premiers commandements, on peut supposer que c'est valable, cet amour, pour tous les instructions que Paul va laisser. Il donne au chapitre 1 son témoignage et réaffirme la certitude de l'évangile de Jésus-Christ. Et il demande à Timothée de combattre le bon combat. Verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi de ce nom, son Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Et donc notre texte commence dans ce contexte. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et donc, j'ai choisi pour titre au message de ce matin, pour le chapitre 2, l'évangélisation est le bon combat qui se mène par la prière et en tenant sa place, comme dans tout combat. On a une façon de mener le combat et on a une place dans ce combat. L'évangélisation est le bon combat qui se mène par la prière. J'exhorte, je lis dans la seconde maintenant, faire des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. En toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai établi prédicateur et apôtre. Je le dis en vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Pourquoi je dis que l'évangélisation est le bon combat? Parce que c'est le grand commandement de Jésus, hein, Matthieu 28, 18, 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, le grand commandement de l'évangélisation du monde entier. L'évangile est aussi au centre des préoccupations de Paul, au chapitre 1, il la réaffirme, hein, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Également, si on considère quand il parle de la loi, au chapitre 1, il dit que la loi est là pour les pécheurs, les rebelles, les impies. Et le rôle de la loi, c'est de convaincre que les hommes, qu'ils sont pécheurs devant Dieu et qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin de salut. Donc, l'évangile est vraiment la priorité, l'évangélisation est vraiment le bon combat. Et au chapitre 2, donc, il le réaffirme encore une fois. Hein, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Oh, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc un deuxième point par rapport à cette question de l'évangile, le bon combat. Paul affirme, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et plus loin, Jésus-Christ s'est donné un rançon pour tous. Alors, est-ce que dire que tous les hommes seront sauvés un jour, indifféremment? Ou bien est-ce à dire que Dieu n'est pas capable de sauver tout le monde? Quand on regarde toutes les chaises vides qu'on a dans notre église, on peut se poser la question, mais pourquoi les choses ne sont pas... Il n'y a pas de résultat à le message de l'évangile? Alors, ces questions-là, on peut répondre non à l'une comme à l'autre. Non, tous les hommes ne seront pas sauvés à la fin de façon indifférente. Non, Dieu est capable, bien sûr. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi, indique l'apôtre Paul. Alors, que comprendre? En matière d'évangélisation, nous pouvons avoir la certitude que personne n'est exclu du plan de Dieu, de salut de Dieu. Hein, on peut se souvenir de Jonas, avec le problème qu'il avait avec les Ninivites. Le plan de salut de Dieu et l'évangile est pour tous les peuples, tout le monde, tous les humains qui peuplent la terre, sans distinction. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nul ne peut dire « le salut n'est pas pour moi » ou bien « le salut n'est pas pour lui » ou bien « l'évangélisation ne me concerne pas ». Non. L'évangélisation est le bon combat. Un combat qui se mène par la prière, pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. On le voit ici, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté et piété. Dieu est bon. Dans nos prières, on ne doit pas demander le chaos. On ne doit pas demander des cataclysmes ou des crises Covid pour que voilà les gens soient secoués et qu'ils se tournent vers Dieu. C'est le contraire. Il demande des Dieu de, nous demande de prier, de le prier pour qu'il y ait des circonstances paisibles. Des circonstances paisibles pour tout le monde. Intercédons, prions, supplions Dieu pour nos autorités, afin que nous puissions déployer nos bonnes œuvres de façon visible et être libres de proclamer l'Évangile, le message du salut. Être libre d'occuper spirituellement le terrain. Et finalement, est-ce que c'est pas ce à quoi nous soupirons, de mener une des vies paisibles, sans avoir la conscience, sans arrêt tiraillé, des vies pieuses, c'est-à-dire des vies qui soient actives pour le Seigneur, qui soient, lui soient consacrées paisiblement et qui portent des fruits pour lui. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de s'endormir spirituellement dans une vie confortable où nous serions centrés sur nous-mêmes. Non, notre attention se tourne vers le monde entier. Tout le monde, nos proches, notre famille, nos proches, nos voisins, nos connaissances, notre travail, et notre pays, notre ville, notre Europe et même toutes les nations qui sont auprès comme au loin. Tout le monde doit être le centre de nos préoccupations et non pas nous-mêmes. Alors, ainsi, certainement, nous aurons concentré là-dessus, nous aurons les idées claires par rapport aux questions qui peuvent surgir de doctrine, d'interprétation de la loi de Moïse ou des prophéties de l'Ancienne Alliance. L'évangélisation est le bon combat qui se mène par la prière en tenant sa place. Et si c'est un combat, les hommes doivent tenir leur place. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Messieurs, priez. Il se trouve qu'on a plus d'hommes que de femmes aujourd'hui, mais bien souvent dans les églises, il y a plus de dames que d'hommes. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et Paul encourage les hommes, en tout cas, à prier en tout lieu. Paul dit qu'il priait continuellement. Et je pense que c'est un bon exercice de piété que de s'habituer à prier continuellement. Il arrivait à le faire, donc ce doit être quelque chose de possible. Et personnellement, j'ai beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Mais je sais que c'est une bonne chose chaque fois que j'ai l'esprit et les pensées qui, tout en faisant autre chose, sont, comme on dit, en prière. Prier en tout lieu, messieurs. Troisième point, en étant, je dirais, spirituellement propre, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il y a 2 semaines, il y avait l'enseignement de Jésus sur les traditions des pharisiens, les ablutions, etc. Et donc, bien sûr, on l'a compris, la pensée de l'apôtre Paul, c'est pas quand on arrive à l'église, on passe tous aux toilettes, on se lave les mains, et puis on lave les mains, comme ça, devant le visage de nos voisins. Il y a rien qui empêche de le faire, mais c'est pas là, je pense pas, que se situe l'enseignement de Paul. Il le dit après, prier sans mauvaise pensée, sans colère, sans arrière-pensée, le second 21. Et ça, c'est facile de prier avec des mauvaises pensées ou de la colère dans le cœur. J'ai fait toute une liste ici. Sans colère contre le gouvernement. Il fait n'importe quoi, on connaît toute la musique des hommes politiques. Sans colère ni mauvaise pensée contre le fisc, qui nous réclame sans arrêt de l'argent. contre les gendarmes qui s'intéressent aux petites choses de dépassement de vitesse et qui s'occupent pas des grands bandits qui vendent de la drogue à tous les coins de rue, sans colère contre les hommes politiques qui pensent surtout à faire de bons repas, contre les bureaucrates qui s'occupent de faire d'inventer de nouvelles règles comme pour se donner du travail, contre les collègues de travail qui abusent. Pas de colère contre mon voisin qui passe à la tondeuse le dimanche après-midi quand je voudrais être tranquille avec ma famille. Contre ma femme qui voit pas les choses comme je les vois. Contre mes enfants qui ferment la porte, qui s'enferment dans leur chambre et ferment la porte. Ou contre moi-même qui finalement suis un gros nul. Élever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, prier. Les hommes doivent tenir leur place dans la prière. Et les femmes aussi doivent tenir leur place. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, je lis dans la seconde maintenant, qui est peut-être plus familière, avec pudeur et modestie, et plus incisive aussi, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, je crois que les femmes, en général, aiment bien qu'on porte le regard sur elles, qu'elles soient remarquées. Pour les femmes mariées, c'est surtout qu'elles soient remarquées de leur mari. C'est peut-être un besoin là qu'il y a chez la femme, je sais pas. Mais en tout cas, Paul n'est pas foncièrement contre cela. Mais ce qui doit attirer le regard des hommes comme des autres femmes, ce qui doit arriver le regard, ce n'est pas la parure extérieure, mais c'est la parure intérieure. Et la parure intérieure, c'est aussi celle des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que mesdames vous les pratiquiez. Et par rapport à tout cela, la Bible est catégoriquement claire. En Proverbe 31:3, le portrait de la femme de valeur se termine ainsi: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31:30. Donc il ne s'agit pas de ne pas se soigner ou de mal s'habiller, ce qui ferait finalement pourrait être choquant pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et finalement cela constituerait un obstacle à l'évangélisation, qui est le bon combat. Mais l'idée, c'est d'attirer à Christ et gagner sans parole, attirer à Christ. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Versets 11 à 15 maintenant. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Alors, pour l'enseignement de Paul, l'enseignement apostolique est que les services et les ministères stratégiques sont ceux de la parole, la prédication, l'enseignement, la proclamation publique de l'évangile, tous ces ministères, ces services de la parole de Dieu, sont la responsabilité des hommes. les femmes ont une position de seconde ligne par rapport à ça. Les hommes sont en première ligne avec les ministères de la parole. Pour autant, l'invitation à la prière, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, concerne aussi les femmes. Et donc les femmes aussi pouvaient prophétiser dans l'Église du 1er siècle, hein. Mais elles ne peuvent pas prendre le lead sur les hommes, surtout en ce qui concerne les questions de doctrine du christianisme. Pour autant, on voit qu'elles sont capables, c'est pas question qu'elles ne peuvent pas, non. Autrement, l'apôtre Paul n'aurait pas besoin de leur demander de ne pas prendre l'autorité sur l'homme. C'est pas qu'elles ne peuvent pas le faire, qu'elles ne soient pas les compétences. Il les encourage à s'instruire, à se former. Et c'est important. Elles ont aussi un rôle d'enseignement, ne serait-ce que auprès de leurs propres enfants. Et dans la deuxième lettre, Paul rend hommage à la mère et à la grand-mère de Timothée, qui ont amené Timothée à la foi. Timothée avec un papa grec, donc il y a un rôle, même dans l'enseignement, que les femmes ont, mais elles ne veulent pas avoir la position de chef dans ce domaine. Et pourquoi, dit-il ? À cause de l'ordre créationnel, car Adam a été le ferme le premier, Ève ensuite. C'est en effet Adam qui a reçu le premier les instructions de Dieu. Il n'y en avait pas énormément, ça tenait en quelques phrases. Et il y avait, vous savez, cette fameuse interdiction de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et donc l'homme devait transmettre ceci à sa femme, et on voit qu'il n'avait pas très bien fait. Adam créé le premier. Pour le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 11, Jésus est Dieu est le chef, la tête de Jésus. Jésus est le chef ou la tête de l'homme, et l'homme est le chef ou la tête de la femme. Il y a un ordre qui est clairement mis en place dans les Écritures. Alors, par rapport à cette question d'enseignement, que penser des femmes qui sont pasteurs aujourd'hui ? Il y en a dans de nombreuses églises. Et que penser de ça, alors, finalement, par rapport à ce qu'on vient de lire ? Bon, moi, je donne mon opinion personnelle. Je ne suis pas là pour faire de la polémique. Mais je pense que c'est une défaillance de la première ligne dans le bon combat. Une défaillance de la première ligne. Les hommes ne sont plus là pour être anciens. Ils manquent à l'appel. Et ils ont démissionné, ou ils ont fui, ou ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Et voilà, ce sont des femmes qui le font, qui les remplacent. Et où est le problème si elles font bien le travail, direz-vous, finalement? Là aussi, c'est un avis personnel que je donne, mais je pense que les hommes ont une grande difficulté pour s'opposer aux femmes. La femme porte l'image de la mère, et vous savez, ce vieux proverbe populaire, ce que la femme veut, Dieu le veut. Il est très difficile à un homme pour s'opposer à sa femme, pour lutter contre elle. Et voilà. Et donc, quand il s'agit de défendre la doctrine, eh ben ça va pas le faire. Là, ça va être plus difficile pour un homme d'argumenter et de contredire une femme. Alors Dieu a fixé des règles de l'ordre créationnel. Et si les femmes veulent bien se soumettre à cela, ma foi, ce sera très bien. Il ne faut pas oublier que ces injonctions, ces demandes de Paul, ces « je veux que », en fait, sont des commandements qui conduisent à l'amour et qui visent l'amour. Comment des injonctions, des commandements, des interdictions, des obligations peuvent conduire à l'amour. En fait, c'est leur objectif même, de conduire à l'amour. Donc, ça peut aider de les voir comme cela. Je voudrais aller un petit peu plus loin maintenant avec des illustrations, des réflexions. Comment en 2024 faire passer ce message? Comment Timothée s'y serait pris s'il était là aujourd'hui? Je ne sais pas les difficultés qu'il pouvait avoir à Éphèse. Ça devait être très compliqué, j'imagine, avec cette disparité dans l'Église de gens tellement différents. Et voilà, qui découvrent tous une liberté qu'ils n'avaient pas avant, entre ceux qui étaient esclaves qui ne le sont plus dans le Seigneur, ceux qui étaient patrons, qui se retrouvent au même niveau que les autres, et les femmes et les hommes également, eux, devant le Seigneur. Moi, je dirais qu'il faut se souvenir que le féminisme n'a pas toujours existé. Quand on regarde les évangiles, tous les récits, les narrations qui sont faites, on ne sent pas du tout qu'il y ait des conflits entre les hommes et les femmes, comme aujourd'hui, que chacun revendique des droits l'un par rapport à l'autre. Les hommes et les femmes, je n'ai pas trouvé d'endroit où ils se plaignent de la place qu'ils ont. Ils semblent l'accepter. Le féminisme n'a pas toujours existé. C'était une première réflexion pour situer ça dans le temps et dans l'histoire des hommes. Je pourrais donner également des exemples contemporains de bonnes œuvres que les femmes ont fait, des bonnes œuvres au féminin, et voir leur importance. Alors j'ai choisi des couples d'exemples extrêmes de personnes contemporaines. Entre les deux, il y a tout un panel. Les œuvres préparées d'avance sont aussi variées que la création de Dieu, j'imagine, et il y a toutes sortes de choses que Dieu prépare à l'avance pour les femmes, aussi pour les hommes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Christina Noble, cette Irlandaise qui est née dans des conditions terrible, on avait projeté le film il y a quelques années ici à l'église, et que Dieu a fait d'elle, on pourrait dire, un bulldozer, qui allait renverser des montagnes en créant des orphelinats au Vietnam, à elle toute seule. Elle a fait quelque chose qui semblait impossible. Ça, c'est d'un côté, hein, elle a 80 ans maintenant, et elle a rencontré le Seigneur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et de l'autre côté, on a ce que vous connaissez peut-être dans le monde évangélique, Timothée Keller, un autre Timothée, mais qui lui, il est parti au Seigneur, je crois, il n'y a pas longtemps. Et il y a quelque temps, ils étaient avec son épouse. Alors, il a écrit beaucoup de, il a fondé de grandes églises aux États-Unis, beaucoup d'influence dans le monde évangélique. Il a écrit beaucoup d'ouvrages très recommandables, comme Les Idoles du cœur. Et donc, cet homme très célèbre, donc, était marié, et donc, à un séminaire à Genève, il était avec son épouse et il a été interrogé. Ils étaient tous les deux dans un fauteuil. Le grand Timothée Keller et son épouse qu'on ne connaît pas du tout. Et au fur et à mesure des échanges, on voyait Timothée Keller qui descendait, puis son épouse qui montait. Et il était là comme un simple homme. Et sa femme avait eu un ministère, un rôle auprès de lui pour le garder comme un simple homme. Et elle grandissait, lui repâtissait, on voyait, c'était très, Très surprenant de voir ça, Madame Keller. Deux femmes qui ont eu, avec Christina Noble et elle, des ministères considérables. On connaît, nous, Françoise Pédot, plus proche de nous, qui s'occupe, qui a fondé des structures au Burkina Faso pour les recueillir les enfants rejetés par la famille parce qu'ils ont un handicap, des écoles, pour les prendre en charge, etc. Un travail très très considérable. Et de l'autre côté, donc Pierre Barito, qui est a terminé son mandat de secrétaire général des CAEF, qui part à la retraite. Et donc, il a rendu un très beau, il a fait beaucoup de travail là pour les CAEF, et il a rendu un très beau témoignage de sa femme Alison, dont on n'entend jamais parler, et me disant que sans elle, rien n'aurait été possible. Il n'aurait pu rien faire. Alors, les premières rendre l'évangile audible quand on voit une Christina Noble, quand on voit une Françoise Pédot, ce qu'elles font et les raisons pour lesquelles elles le font, ça rend l'évangile audible. Nos contemporains tendent l'oreille, ils sont obligés, ils ne peuvent pas faire autre chose que d'écouter et de tendre l'oreille au message de l'évangile. Et les unes ont rendu ce travail-là possible que les gens puissent tendre l'oreille à l'évangile, et les autres rendent le travail de proclamation possible à travers leur mari dont elles s'occupent, qu'elles soutiennent, qu'elles encouragent, qu'elles gardent dans l'humilité. Les deux sont indispensables pour que ce travail d'évangélisation se passe, à la fois que les gens soient disposés à écouter, à la fois qu'ils écoutent ce message, et tout ça, je trouve que c'est le bon combat. Donc les œuvres au féminin sont importantes pour l'avancement de l'évangile, pour le combat de l'évangile. J'encouragerai aussi les dames à déplacer le regard. Satan a fait porter le regard sur ce qu'elle ne pouvait pas atteindre, qui lui était interdit, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, qui lui était interdit. Satan lui a dit « Regarde ce fruit, regarde-le !» Et il est soudain devenu tellement important pour elle. Elle a été séduite, elle a été trompée. Le pouvoir de séduction de Satan est très fort. Et il ne concerne pas que les femmes. Moi, j'en ai été victime dans le passé, une fois que j'avais besoin de changer ma vieille 309. J'ai raconté ça une fois dans l'église, c'était il y a bien longtemps. Et depuis ce jour, j'ai beaucoup de compassion pour Ève par rapport à la séduction, la tromperie dont elle a été victime. Donc, c'est important de déplacer les regards. On peut détourner son regard de la question de l'enseignement, de la question du ministère public de la parole, pour le tourner vers la maternité. Ça appartient exclusivement aux femmes. Et Marie est la femme de la promesse, par laquelle la promesse s'est accomplie. Jésus-Christ est venu dans le monde à travers une femme. Elles ont cet extraordinaire privilège de transmettre la vie. Certes, toutes les femmes n'auront pas d'enfants, n'auront peut-être pas la possibilité d'en avoir, mais elles ont toute cette potentialité de transmettre la vie, et il s'agit ici de ne pas y renoncer. C'est important. Et il y avait peut-être des enseignements qui couraient à l'époque de Paul en disant Voilà, c'est pas la peine pour une femme d'avoir des enfants. À quoi ça sert de faire des enfants? Et même aujourd'hui, il y a cet enseignement qui revient. Voilà, il n'y a pas d'avenir, tout est sombre, tout est noir. À quoi ça sert de faire des enfants? C'est des choses dans lequel, contre lesquelles il faut résolument s'opposer. Ça fait partie de nos combats contemporains. Et là, l'apôtre Paul est très clair et encourage les femmes à ne pas se détourner de la maternité. C'est quelque chose qui est salutaire pour elles. Marthe et Marie, également, deux femmes qui n'étaient pas mariées, justement. Et elles présentent un beau ministère d'hospitalité et d'adoration. Et là, c'est vrai que les hommes, on peut être hospitalier et on peut adorer Jésus. Mais on ne peut pas ouvrir notre maison comme Marthe l'a fait pour récupérer et accueillir disciples, Jésus et ses disciples. L'hospitalité, c'est quelque chose qui est un point où les femmes excellent. On a l'image également de Marie qui est au pied de Jésus et qui écoute l'enseignement de Jésus. Et ça aussi, c'est un modèle qui est le contre-pied. C'est si Jésus donne un enseignement, il y a là Marie qui écoute et qui boit les paroles de Jésus, et à travers tout l'enseignement apostolique, c'est le Seigneur qui parle. Il est impossible aux hommes également d'avoir un ministère d'adoration. On a cette image de la femme, vous savez, qui rentre dans la maison de Simon le pharisien et qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes et qui essuie ses pieds avec ses cheveux. Ce passage en dit long de la capacité d'adoration des femmes. Donc, moi, j'encourage les dames à se détourner de cette question de ministère public et de prendre publiquement la parole et de faire comme les hommes font pour ne pas perdre de vue ce qu'elles seules peuvent faire. Alors, pour conclusion, le bon combat est d'évangélisation. Et pour cela, il nous faut travailler à notre vie de prière, combattre dans un bon ordre selon les instructions du Seigneur. C'est comme ça que le travail se fera bien, c'est comme ça qu'il y aura du fruit, c'est comme ça que l'évangélisation va bien fonctionner si on suit bien les instructions du chef Jésus. Et puis, si nous avons ce souci-là en tête, toutes les autres questions de doctrine, de complications que des fois on se fait dans les églises, de disputes, ah ben tout ça vont trouver leur place toute seule, je pense, si on a en tête les bonnes priorités. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est parfois dure. Elle est parfois difficile à accepter, que ce soit ces paroles-là sont difficiles à accepter dans notre culture, dans notre monde, dans le moule dans lequel nous avons été formés et par rapport à toutes les pressions qui sont exercées sur nous par le monde qui nous entoure, combien c'est parfois si difficile d'être à la bonne place, celle que toi tu as prévue, et de ne pas regarder ni à droite ni à gauche. Seigneur, d'être que nous trouvons le bon équilibre entre être fidèles à ce que tu attends de nous, d'une part, et en même temps, ne pas paraître pour les gens de l'extérieur comme des extraterrestres, des farfelus, des gens de notre monde, de notre siècle. Seigneur, donne-nous la sagesse pour cela, pour que le travail de l'évangélisation puisse se faire sans obstacle. Aide-nous à développer notre vie de prière personnelle, qu'elle soit large, qu'elle soit généreuse, qu'elle ne soit pas étriquée à nos propres besoins ou aux besoins seulement des personnes qui nous sont proches, même si ça a toute sa place, mais que nous ayons un cœur grand pour nous inquiéter pour le bonheur, la paix et la diffusion du message de l'Évangile dans le monde entier. Dans le monde entier. Merci Seigneur de nous aider, de nous bénir, de fortifier les hommes, de fortifier les femmes, de nous permettre de travailler dans l'Église de façon harmonieuse, de façon complémentaire et de façon fructueuse pour que le monde voit que tu es au milieu de nous et que, oui, il y a possibilité d'avoir une paix et une belle harmonie entre les hommes et les femmes au XXIe siècle pour le bonheur de tous. Dans le nom de Jésus.